Quoi, Robert?
Bonjour, Alexis. Belle émission aujourd'hui. Hein?
Oui.
Oh, du beau matériel. Bon matériel.
Ouais.
Bon, notre chroniqueur Éric Pouliot-Tisdale est là.
Scott Pienne-Picard, le chanteur Inou.
Et il y a un invité à qui on va parler à peu près maintenant qui s'appelle Richard Gilbert. C'est le nouveau directeur général de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec.
Exactement.
Il vient d'être nommé ou à peu près.
Ça fait très peu de temps, oui.
Êtes-vous là, M. Gilbert?
Oui, oui, je suis ici. Bonjour à vous.
Ben, quoi, bonjour. Félicitations pour votre nomination. Parlez-nous un peu de cet organisme. Tout le monde ne le connaît pas autant que vous, j'imagine. Là. La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, c'est quoi exactement?
En fait, c'est une des commissions qui est chapeautée par l'APNQL, qui est l'Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador. La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec et les spécialistes en employabilité en formation des Premières Nations du Québec. On est là, en fait, pour aider les Premières Nations à construire leur essor socio-économique et à bâtir leur estime de soi, le collectif, les aider et les accompagner au niveau de l'éducation et de formation professionnelle jusqu'à l'employabilité.
Vous avez déjà travaillé dans ce domaine-là avant d'avoir ce poste-là, n'est-ce pas?
Ah, j'ai fait plusieurs parcours. Mon parcours professionnel m'amène ici. D'ailleurs, j'ai été élu chef pour 3 mandats de ma communauté.
Ma communauté
était de Gaspeg.
Mm-hmm.
Et c'est là où j'ai fait mes premières cordes au niveau dans le monde autochtone. Durant mes mandats, c'est dans les années 80, fin 90, début 2000,
mm-hmm.
On a assisté justement à la création de ces dites commissions. Et la Commission de développement des ressources humaines est une qui m'appelait que j'avais un attrait incroyable de par ma formation aussi. J'ai toujours eu attaché une grande importance à la formation et à l'éducation professionnelle. Je me suis mon parcours a parti de Parc Canada pour une vingtaine d'années jusqu'au système scolaire du Québec où j'ai travaillé pour la commission scolaire Eastern Shores, une des 9 commissions scolaires anglophones au Québec, celle qui a le plus grand territoire dans l'est du Québec jusqu'à Fermont de Métis, incluant la baie des Chaleurs. Là, j'ai occupé des postes de directeur de polyvalente, directeur de centre d'éducation aux adultes, directeur de service, certaines tâches de directeur adjoint. Et c'est ce rôle-là qui m'a fait aussi découvrir que la formation professionnelle et la formation d'éducation aux adultes particulièrement est un attrait pour moi. Donc, la Commission de développement des ressources humaines, où on prend des gens, puis on les aide, puis on travaille avec eux, on est valorisé par ça. En tout cas, constamment, c'est une paye en soi, juste qu'on peut dire qu'on aide quelqu'un.
Monsieur Gilbert, pourquoi il fallait absolument une commission qui est vraiment là, dévouée, dédicacée à ses formations, à l'emploi pour le milieu autochtone, plutôt que d'aller dans ce qui existe déjà?
Ben, écoute, le monde autochtone, il y a des particularités vraiment différentes, que ce soit des gens qui sont surcommunautés ou des autochtones urbanisés ou urbains. On représente 27 communautés avec 27 particularités qui passent de Pacoachipi jusqu'à au nord du Québec, à l'ouest. Et chacune des communautés vivent des particularités différentes qui est plus difficilement compris peut-être par les services usuels. Donc, nous, on répond à ce besoin-là et on familiarise les autochtones aux particularités du marché du travail. D'ailleurs, aussi, on assiste les employeurs et les compagnies à la sensibilisation d'une force ouvrière autochtone aussi. On les aide à inclure culturellement et faciliter l'insertion de notre force ouvrière au sein des entreprises.
Quand vous allez voir un employeur éventuel et que vous lui expliquez comment et quoi faire avec une main-d'œuvre autochtone, vous leur dites quoi exactement?
Ben, on, on les sensibilise à la particularité autochtone, de par la, leur particularité, c'est-à-dire culturellement, c'est-à-dire, mon Dieu, on assiste, c'est parce qu'il y a, différentes particularités. Si on, parle de quelqu'un de ma communauté, de Gaspec, des fêtes qui sont vraiment attachées à leur cœur. Donc, nous,
des congés culturels, par exemple.
Des congés culturels et aussi des particularités familiales, des fêtes. Il y a beaucoup de particularités. Et chaque communauté a leur Nous, on fait un inventaire et on assiste les entreprises à accepter cette réalité-là.
On peut penser aussi à la particularité de la langue. Parce qu'il y a beaucoup de communautés qui sont anglophones. Dans le marché du travail du Québec, c'est pas tout le temps évident non plus.
Oui, c'est ça. Puis aussi, dans le monde de l'éducation, on travaille beaucoup avec les deux langues officielles. On voit le gouvernement du Québec avec la protection de la langue française. Mais souvent, les Autochtones, ils ont... leur première langue autochtone et soit une ou l'autre des langues officielles. Donc, ça crée des barrières. Mais nous, sincèrement, c'est éliminer les barrières puis faire en sorte que l'employé soit heureux dans un environnement de travail.
Ça, c'est pour l'employeur, mais si quand on fait de la formation avec des futurs employés, la formation elle-même, vous le faites différemment, bien sûr, que ça se fait dans le milieu à l'automne, mais c'est quoi les caractéristiques auxquelles vous faites vraiment très attention dans la formation?
Ben, en fait, dans la formation, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment l'accompagner financièrement, de trouver de la collecte d'informations préliminaires sur la composition de chaque programme de formation, et on adapte la clientèle, on fait d'aide à la... mon Dieu.
Le suivi des étudiants, par exemple.
Et voilà. Et aussi on fait... c'est, en anglais, on appelle du guidance counseling. Là, c'est du... le nom m'échappe en français. On travaille dans les deux langues. Hein. L'idée, c'est qu'on prend l'Autochtone et on le guide. On le guide à travers une formation adaptée à ses besoins ou à ses capacités aussi. On fait toutes les démarches au niveau des capacités de cet autochtone-là dans le marché du travail. On l'aide à bâtir les curriculum vitae, on l'aide à son insertion. Et à la formation, ben, on l'aide à trouver un programme de formation et un suivi de stage et aussi le financement des programmes.
Ça doit être un travail assez délicat, M. Jalbert, parce que il faut aussi respecter la spécificité de l'Autochtone, puis aussi les besoins de l'industrie qui veut l'embaucher. Alors, nécessairement, ça doit être assez délicat, parfois, d'y aller entre les deux, pour pas que ça fasse de la colonisation comme ça a déjà existé depuis longtemps. Là.
Ben, en fait, c'est ça. C'est qu'on tente d'éliminer toute barrière. Puis, en fait, tout semblant de colonisation, c'est plus acceptable aujourd'hui dans le contexte où l'on vit. On a des gens qui se sont instruits, on a des gens qui travaillent très, très bien dans la société actuelle, mais qui ont des particularités. On voit nos gouvernements de plus en plus ouverts à intégrer de la ressource étrangère. On voit ici autour du bureau régional comment c'est arrivé beaucoup de Mexicains, beaucoup de travailleurs internationaux. Mais on a une force ouvrière autochtone sur le territoire qui veut œuvrer à travers les entreprises et les organisations ici. Donc, nous, on se vante et on se flatte de dire qu'on va être la ressource, la référence dans l'employabilité et dans la formation pour justement essayer de faciliter ça puis éliminer toutes les barrières existantes.
Vous arrivez à votre poste, M. Gilbert. Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent maintenant que c'est vous qui êtes là?
Ben, en fait, c'est plutôt reprendre les cordeaux d'une commission qui a eu des directeurs généraux par intérim. Donc, c'est vraiment asseoir un leadership et reprendre les équipes de travail qui ont fait et qui font un travail exceptionnel. Mais on va resserrer les rangs, puis on va offrir un service là, à la hauteur de qu'est-ce que les Autochtones méritent et que la Commission est capable de livrer.
Donc, la Commission est toujours avec sa stratégie urbaine impliquée dans la formation des Autochtones en milieu urbain?
Oui. La division, toutes les divisions existent encore. La stratégie urbaine qui répond aux Autochtones qui sont de façon urbaine et hors communauté. On œuvre aussi au service des 27 communautés dont on représente, dont le collectif, et ainsi de suite. Et nous allons aussi moderniser tous les services comme de communication. Nous avons aussi beaucoup de plans au travers de moderniser les communautés à un accès direct par un projet qu'on appelle connectivité. On envoyait des ressources informatiques qui sont directement reliées au bureau régional. Mmh. Les services vont être spontanés. C'est toutes des choses qu'on fait dans une planification stratégique pour s'assurer que la Commission des développements des ressources humaines soit la référence en milieu d'employabilité et de formation professionnelle.
J'espère bien que ce système-là informatique va fonctionner parce que je me rappelle de l'ancien système, c'était l'enfer sur Terre. J'ai eu à travailler avec et il n'y avait rien de plaisant à travailler avec ce système-là. La Commission de développement des ressources humaines travaille aussi à amener les gens à finir leur formation secondaire.
Oui, effectivement. Tout programme de formation passe aussi par la formation académique. Donc, on essaye. C'est sûr qu'on a une commission sœur qui est la commission en éducation des Premières Nations, mm-hmm. mais qui s'occupe plutôt de la formation académique. Mais nous, on s'assure qu'on a les prérequis pour les formations, puis on aide les Autochtones à acquérir une formation professionnelle.
Par le biais des centres d'éducation des adultes, notamment que dans les communautés?
Oui, en fait, la CDRH est fiduciaire du conseil scolaire qui s'occupe de l'éducation aux adultes. On a des centres d'éducation aux adultes dans différents endroits, dont Val d'Or, Kanawake, Pessibit, qui est le nouveau, Lessigouche, qui est aussi Gaspésie, qui est un satellite. Donc, on essaie de vraiment s'assurer.
Monsieur Jalbert, entre vous et nous, vos principales embûches pour obtenir les résultats que vous souhaitez, ça serait quoi?
Ben, c'est encore il y a un stigma d'être autochtone, puis il y a certains encore préjugés. C'est ces stigmas-là qu'il faut changer. Nous essayons d'être visibles, nous essayons de démontrer que nous sommes un peuple fier, moderne et instruit, puis qu'on a des gens qui s'occupent de garantir que la force ouvrière est plus qu'acceptable, elle est même des fois supérieure à d'autres parce qu'on s'en occupe et on les fait développer. Donc, c'est l'embûche, des grosses embûches, c'est encore le stigma de l'Autochtone.
Donc, dans des régions en particulier comme à Sept-Îles ou à Val-d'Or, par exemple?
Ben, c'est sûr, hein, vous le savez comme nous, là, où est-ce qu'il y a des territoires autochtones qui voisinent des villes, des fois, là, c'est difficile. Mais c'est comme je vous ai dit en entrée de matière, chaque communauté, on représente 27 communautés, chaque communauté a leur particularité. À Gaspésie, il n'y a pas de territoire, je sais d'où ce qu'on vient. Les Autochtones, ils ont été assimilés et instruits avec les populations. On sent moins ces stigmas-là, mais si on parle de Val-d'Or, on parle de bien d'autres endroits, il y a encore des réticences et des préjugés qui sont malheureusement des fois très nuisibles.
Est-ce que des réticences et des préjugés aussi chez les Autochtones parfois?
Ben, écoutez, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et quand on se fait... On a un regard porté sur nous qui est plutôt négatif, mais c'est comme le ping-pong. Hein. Mais nous, c'est notre rôle aussi de démontrer que On travaille sur les deux côtés de la médaille. On travaille sur le, comme je vous ai mentionné, à développer l'Autochtone à la force ouvrière, à l'instruction, à la formation professionnelle, mais aussi aux entreprises à accueillir chez eux une force ouvrière plus qu'adéquate.
Monsieur Jalbert, c'est un plaisir de vous avoir à l'émission. On vous souhaite bon succès dans votre mission qui est importante. Moi, j'ai tout le temps pensé que...
Hey, prenez des vitamines, ça va prendre d'énergie.
Oui, mais c'est important parce que si on veut des communautés qui se sortent du cadre juste de la survie, il faut sortir de la dépendance à la sécurité du revenu ou des choses comme ça. Puis je pense que la commission, c'est un bon outil pour ça. Kitty Miigwetch.
OK, merci. Bonne journée.
يا لغامين قلتي فوق الغصون تريد العشاء أمين من سحر الجفون
Oh,
C'était le collectif Octo Echo avec la pièce Ode à la Terre.
Et comme un mélange Moyen-Orient autochtone.
Oui, c'est ça. Donc, Moyen-Orient autochtone et juive.
C'est un peu comme un couscous au castor.
Oui.
On va tomber dans nos nouvelles, Alexis.
Ben oui.
Une nouvelle qui est vraiment pas drôle, par exemple, cette semaine. Là, une aînée Inuk retrouvée morte. C'est un chantier de construction à Montréal, encore une fois. Là.
Encore une fois, une personne en situation d'itinérance autochtone est décédée. On attend tout le temps les crises pour avoir du financement. Les organismes le disent. Ils sont à bout de souffle, sont à bout des ressources. On a créé une tente l'année passée après que Raphaël Napa-André soit décédé dans une bécoche chimique pour accueillir les personnes pour qu'ils puissent se mettre au chaud. On a dit que c'était un projet temporaire. On a fermé la tente une fois le printemps arrivé. On n'a pas pensé en remettre une.
C'est toujours à refaire.
Manifestement, on dirait que ça prend des morts ou des drames pour qu'on agisse.
En fait, il n'y a pas moyen d'agir. On ne fait que réagir.
Ouais.
C'est toujours ça qui se passe.
Dans le cas des itinérants, est-ce que ces personnes-là ont une valeur en tant qu'humain? C'est qu'est-ce que je me demande quand
on en parle, mais il se fait bien moins de choses qui devraient s'en faire. Hein?
Ouais, puis comme je l'ai déjà dit à l'émission, juste d'un point de vue économique, ça revient moins cher héberger ces gens-là, leur offrir un toit, que de les laisser dans le système, être policés, être hospitalisés, et ainsi de suite. Donc, juste dans une vision capitaliste des choses, on devrait leur offrir un toit sur la tête.
Une action, on change de sujet un peu, une action qui suscite de la réaction cette fois-ci. Première Nation conteste l'octroi de 9 permis d'exploitation minière là, à Grassy Narrows. C'est important de s'opposer à ça pour sauver leur territoire.
Oui, ben la couronne, les couronnes provinciales puis la couronne fédérale dans les projets comme ça d'exploitation du territoire ont une obligation constitutionnelle de consulter les Premières Nations. Et c'est assez particulier la réponse de l'Ontario, du gouvernement de l'Ontario dans ce dossier-là. On vient dire « Ah, on savait pas que la Première Nation s'intéressait à ce territoire-là ». Première Nation, qui, rappelons-nous, a été très touchée par tout ce qui s'est passé dans les pensionnats et qui a à gérer une contamination grave au mercure de leur lac, de leur eau potable.
Ça, on savait pas.
On savait pas.
C'est incroyable qu'on oublie vite, hein?
On oublie ou on veut pas voir.
Ouais, c'est sûr. Kanawake, je le prononce pas aussi bien que toi. C'est pas Ganawake. Comme ça que ça se prononce, hein? Ganawake?
Ouais, Ganawake.
On m'a comme un G au début. Plongé dans un budget fortement autonomiste, c'est nouveau comme attitude?
Ben, le nouvel chef veut faire les choses différemment, manifestement, et de voir justement qu'elle décide de prendre les rênes en prenant qu'est-ce qu'il y a dans sa communauté comme ressource. Il y a des gens qui voulaient faire pousser du cannabis, qui veulent en vendre. Ben OK, on va faire en sorte de prendre une partie de cet argent-là pour que ça revienne dans les caisses de la communauté. Puis on va développer le logement. On va développer on va mettre de l'argent aussi dans les revendications particulières. Puis les revendications globales. On fait du jeu à Kanawake. Ben on va prendre une partie de cet argent-là. On va décider que oui, OK, vous pouvez vous développer là-dedans, mais nous, la communauté, on va investir dans nos services. C'est vraiment intéressant comme approche, c'est de se dire qu'on utilise la souveraineté qu'ils ont ou la souveraineté qu'on leur laisse parce qu'il y en a qui veulent pas intervenir là-bas et tout ça, donc pour redonner à sa population. Donc, je trouve que c'est super intéressant. Puis on le voit, entre autres, aussi avec le juriste en moi qui voit leur système de justice réparatrice se développer, leur système de ayant leur propre palais de justice avec, ou qu'on appelle ça un service de paix. Parce que la grande constitution des Kanengaga, des peuples iroquois, c'est la loi de la grande paix. Donc, moi, je trouve ça vraiment inspirant.
Les Autochtones, Alexis, représentent 2,3% de la population, mais dans les prisons, c'est 6,6%. Peux-tu m'expliquer ça? Ou bien, tu as juste de gueuler, non?
Ben, J'ai déjà écrit une chronique là-dessus à l'époque, dans Espace autochtone. On pourrait parler encore là de décolonisation du système judiciaire, du fait que on est surreprésenté, puis c'est encore pire dedans la population carcérale féminine. Donc, il existe des outils comme les rapports Gladue pour justement avoir une sentence qui est plus adaptée à la réalité des Premières Nations. Mais pourquoi il y a tant d'Autochtones? On criminalise souvent la pauvreté. Les itinérants puis tout ça vont se retrouver avec des amendes qui sont pas en mesure de payer. On va criminaliser des choses qui ne devraient pas avoir lieu, qui devraient plus se retrouver dans le domaine de la santé mentale puis de la santé publique que de la justice.
En parlant de « on en parle, mais on fait pas grand-chose », au Manitoba, hein, on décide que un mois sera, mois de novembre, va être entièrement sensibilisé à la situation des personnes handicapées autochtones. C'est joli, mais ça fait quoi, là?
Ben, c'est un exercice d'éducation populaire. C'est un peu comme la Journée nationale de vérité et réconciliation. Est-ce qu'il y a des actions réelles et tangibles qui sont derrière ça? On va attendre de voir pour se prononcer.
En parlant d'attendre, on vient encore de s'apercevoir que les documents d'archives sur les fameux pensionnats, ben c'est à Rome. Gardons ça, toi.
Ouais. Non, on n'a pas de documentation, non. Mais c'est ça, on voit encore l'hypocrisie de l'Église catholique dans ce dossier-là. T'sais. On vient nous faire croire que l'Église catholique souvent était moins pire que les protestants et ainsi de suite, mais c'est juste un autre outil de colonisation comme les autres, dans le cas des Premières Nations, puis
Ben,
dans beaucoup d'endroits dans le monde
il faut dire
aussi,
ce que
là.
c'est aussi. Les documents sont pas rangés à Rome, ils sont cachés à Rome.
Ouais. Sont pas disponibles à tout le monde.
Ben,
On peut pas aller se promener
ça tombe
à Rome.
Mal, ça tombe tellement mal. C'est effrayant. Une dernière nouvelle. Les Autochtones à l'honneur à l'Expo 2000 de toute l'année, en fait, à Dubaï. C'est une bonne nouvelle aussi. Hein, il n'y a
Oui.
pas juste dans nos territoires où on le fait.
C'est sûr que c'est une bonne nouvelle, l'Expo universelle de Dubaï. On pourrait parler après ça de la pertinence de la ville de Dubaï, mais il reste qu'on va prendre qu'est-ce qui passe en termes d'exposure.
Ben, on va prendre l'effet que ça fait plutôt que le pourquoi c'est là.
Oui.
Dubaï. Ben, écoute, merci Alexis. On se retrouve un peu plus dans quelques minutes là, pour l'autre partie
oui,
de l'émission.
Avec notre chroniqueur historique.
Absolument.
Écoutez, Coué, bonjour, avec Alexis Wawanalwat et Robert Blondin.
Et un troisième larron.
Ben oui.
Hein? Notre ami, le chroniqueur Éric Pouliot-Tisdale. Éric, tu es là?
Ben oui, ça va bien.
Éric, si tu réussis à être clair dans la chronique qui s'en vient, je pense que tu as le droit à une mention d'honneur. Y a-t-il quelque chose de plus compliqué que les relations avec entre les alliances militaires autochtones et les États, etc.? C'est à s'y perdre assez facilement, merci.
Effectivement. Depuis la guerre des 7 ans, disons, parce qu'évidemment, bon, au début de la colonie, tout le monde voulait charmer tout le monde. Les Hollandais, les Français, les Anglais étaient en quête des mines de fourrure, disons. Donc, tout le monde tentait de faire le plus d'alliances possible pour avoir le monopole vers, disons, la route des Grands Lacs et tout ça. Éventuellement, diverses alliances se sont produites. Mais là, vraiment, les colonies s'installaient vraiment fortement. Puis de 1756 à 1763, la première guerre d'envergure, la guerre des 7 ans, commence entre l'Europe, l'Inde puis l'Amérique. Dans la plupart de tous les groupuscules européens qui organisaient des empires coloniaux à travers le monde, là, donc de l'Inde, même une partie de l'Afrique et tout ça. Donc, c'était la lutte pour la suprématie qui commençait à s'organiser aux États-Unis. Le conflit, au début de la guerre, les Français sont aidés par la milice canadienne puis des alliés autochtones qui étaient ceux de la vallée du Saint-Laurent, dites les Sept Nations. Donc, c'était les sept nations, des missions principales de la Vallée-Saint-Laurent qui étaient, disons, les alliés des Français à l'époque. Sans oublier aussi que pour être considéré comme un allié du roi de France, il fallait joindre les missions et devenir un sujet de la couronne. Donc, ne pas avoir le droit de vote, mais d'être reconnu comme des alliés en tant que sujet de la couronne, investi dans les missions pour faire la promotion de la chrétienté et de l'agriculture. Donc, c'était une forme d'assujettissement déjà un peu inconsciente au départ. Ensuite, les Britanniques débutent en montant là, vers le nord, vers le Québec. Ils prennent Louisbourg en 1758, Québec en 1759, puis Montréal en 1760. D'où cette conquête, le traité de Paris a cédé officiellement le Canada à la Grande-Bretagne. Puis c'est comme ça que la fondation de la guerre des Sept Ans a créé, disons, la fondation biculturelle anglaise-française du Canada moderne, le Haut et le Bas Canada. Donc, ça, c'est vraiment le départ des premières grandes guerres. Ensuite, après 1763, il y a la rébellion de Pontiac qui s'oppose à l'Empire britannique. Fait que finalement, c'est une confédération de tribus autochtones variées vraiment de toute la région des Grands Lacs, allant, disons, du pays des Illinois à l'Ohio, de 1763 à 66, vraiment, qui se sont organisés. Un conflit qui a été, disons, arrangé avec des politiques désavantageuses. Ça imposait aux Britanniques, les Britanniques imposaient aux Amérindiens, disons, après avoir battu les Français pendant la guerre de la conquête, que les tribus devaient joindre un soulèvement amérindien contre les troupes des colons britanniques. C'était ça l'idéal là, de Pontiac, de s'élever contre les alliances avec les colons britanniques et tout ça. Pontiac aussi, c'est un chef outaouais. Donc, les guerres ont commencé en 1763. Offensé, disons, ça a parti avec les politiques du Britannique Geoffrey Amherst, qui voulait vraiment présenter, disons, une supériorité des forces britanniques. Il imposait vraiment un impérialisme fort. Puis là, c'est vraiment là que les troupes de Pontiac se sont éveillées et tout ça. Or, ça a duré 3 ans. La guerre a été, disons, brutale, et puis ça n'a pas porté fruit pour les Autochtones. Enfin,
c'est à cette époque-là, Éric, qu'on se rappelle de Amherst, hein, avec ses couvertes bactériologiques.
Exactement, oui, tout à fait. Amherst, c'était vraiment, il avait vraiment, disons, annihilé l'alliance entre Autochtones et les troupes pour faire, disons, une colonie, disons, unie et jointe. Il y avait vraiment, c'était une ségrégation complète avec Amherst. Puis c'est ça qui avait vraiment éveillé le groupuscule de Pontiac, puis dans son mouvement. Puis ça s'est finalement, ça s'est terminé, disons, que les gens avec beaucoup de faiblesse et tout ça, les gens ont finalement enjoint les missions tant aux colonies anglaises, françaises, du Canada que des États-Unis. Et puis là, la guerre de 1812, peu de temps après, c'est passé. C'est-à-dire que pendant l'hiver de 1811, le président des États-Unis, Madison, il commençait à organiser des raids pour viser le Canada, parce qu'il y avait des embargos de l'Angleterre et de la France dans les mers, dans l'océan Atlantique. Madison, il a désigné un major général. En avril de 1812, les principales attaques, ça visait le nord du lac Champlain jusqu'à Montréal, parce que c'était un point stratégique, vraiment les eaux, les zones portuaires. Donc vraiment là, c'est vraiment, on peut voir que ça a tourné beaucoup aux alentours de Burlington, Plattsburgh, les Grands Lacs et tout ça. Et puis là, il y a la milice qui a été fondée, les Voltigeurs. ont fondé une milice d'Autochtones avec Salah Berry et de Loraignier pour contrer, pour avoir disons, des guides, des gens qui étaient aptes aux alentours des Grands Lacs, qui connaissaient bien les secteurs, qui connaissaient aussi les méthodologies de guerre dans la forêt et tout ça. Donc, il y a la milice des guerriers, dite des warriors, qui a été créée. Et puis, ça concernait surtout les gens des missions des sept nations, justement. Donc, Kanawake, Kanisatake, il y avait des gens d'Odanak, il y avait des gens de Wendake. Donc, les missions principales, vraiment, de la vallée du Saint-Laurent. Et puis, on voit que dans les milices qui avaient les mieux d'organiser, c'était surtout des groupuscules avec de Loraignier puis Dominique Ducharme, qui était le dit commandant des troupes de guerriers autochtones. Et puis, c'était surtout des gens de Kanawake, parce que entre Kanawake et Kanisatake, disons, parce que ceux de Kanisatake, ils commençaient déjà à avoir des problèmes avec les Sulpiciens en lien avec la propriété de la terre et tout ça, du sol. Donc, il y a eu moins de gens de Kanisatake qui ont été impliqués pendant la guerre de 1812, mais beaucoup plus de Kanawake qui avaient conservé, disons, plus de relations avec Akwesasne aussi. Il y a un chef d'Akwesasne, Louis Cook, lui, s'était opposé, il avait tenté, tant bien que mal, à convaincre tout le monde de ne pas faire la guerre, étant donné que la terre des Mohawks est entre le Canada et les États-Unis. Mais en vain, ses efforts ont été vaincus, c'est-à-dire que les Britanniques ont expliqué aux Mohawks que si vous ne vous battez pas du côté des Britanniques contre les États-Unis, mais vous allez perdre votre alliance avec nous et vous allez perdre vos terres. Donc, ça l'a vraiment déchiré les...
Il y a une chose qui est évidente, Éric, quand on écoute une telle chronique, puis c'est fascinant d'entendre toute cette histoire-là, c'est qu'on est habitué d'entendre parler de l'histoire du Canada ou de l'histoire des États-Unis ou du Mexique, mais dès qu'on touche à l'histoire autochtone, il n'y en a plus de frontières. C'est l'Amérique du Nord et des centrales aussi, au complet, qui était le territoire des Autochtones. Là, on le voit très bien dans ce que tu viens de conter.
Exactement, oui. Ça vient vraiment... ça a vraiment déchiré les gens d'être obligés de s'associer à un terrain ou à un autre. C'était vraiment... c'est vraiment ça qui a déchiqueté, disons, pour une certaine période, la Confédération, par exemple, iroquoise, tu sais. Ça a créé des froideurs, mais malgré tout, après, tout le monde s'est réuni, évidemment. Mais évidemment, c'est sûr que tant dans les milices américaines que dans les milices canadiennes, il y a des gens qui se sont affrontés à même les cinq nations.
Et il reste parfois des reliquats, des restants de ces oppositions-là, parfois, dans notre histoire.
Exactement, oui.
Éric, merci. Éric Pouliot-Tisdale, merci infiniment. Super chronique, Éric, merci.
Ça m'a fait plaisir. Ben, bonne fin de semaine. Mi pigua na kuyan iden man na matenden chikwanden na teit na mi chibato kuyan iden man ni ushamwan na tiktak to chika ish pash nigaden man Non deve non c'è guande di te Non mi sta te nascem c'am ci ve Tane na ispan Che spes Non guate tia Non mi sta te nascem c'am ci ve
Ma maintenant de match quoi j'ai tout mal. Dans le monde j'ai que de tan. J'ai roué ta ton et tu vois. Tout à coup y a j'ai ce gouillan. Tu peux dire que Gat na guita de ti, pescava de mar. Deve não te guardente. Não está tendo as tamcham te ué. Ande na isman, que espes, não há te tia. Stat in Ashton Champchi Well, Ashton Champchi Well, and then when in Jeretayan, they got in the Tayan, the big was Yan. When she in the pickle, quit that was sir, when she asked Snack it, they was scam, Jiman.
L'amour que nous partagions de l'artiste Scott Pienpikor.
Ça, c'est presque une primeur, là. Ça va sortir en 2022.
Oui.
Avec un artiste extraordinaire. J'aime beaucoup sa voix. Est-ce qu'il est là, cet artiste-là, avec nous?
Oui, je suis là avec vous autres.
Oui, Scott Pienpikor, bonjour.
Bonjour.
C'est magnifique. Là, écoute, je vous dis ça comme ça, c'est ma première réaction, première fois que je l'entends. La voix, les arrangements, le mixage, absolument formidable. Bravo.
Oui, merci.
Ça fait longtemps que vous faites de la chanson?
Ouais, ça fait longtemps. Pareil, quand j'ai commencé, j'avais 6 ans, je pense. Mais pour vrai, quand j'ai commencé à faire des chansons, j'avais 14 ans.
Il y a toute une culture artistique, hein, à Wahat Makmalotenam. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent de votre communauté.
Ouais, beaucoup, beaucoup d'artistes. Ouais, mais, je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup.
C'est quelque chose qui se transmet dans les familles?
Je sais pas. D'après moi, c'est... Tu sais, je pense que c'est... Le monde aime ça, jouer de la musique un peu partout. Là, mettons, quand il y a des parties, puis des affaires de même, puis je pense que ça commence des fois par là, mais c'est aussi... C'est Cashton, là.
Ça a eu, beaucoup d'influence quand j'étais à l'époque.
Ouais,
hein.
C'est ça, l'influence, oui. Puis je pense que ça startait un peu là, puis le monde il aime ça, je pense.
Est-ce qu'on fait de la musique, parce qu'on aime ça, c'est sûr, pour être aimé aussi, mais aussi pour élargir ses horizons, aller au-delà de Magnotelam, aller ailleurs au Québec ou même en Amérique du Nord?
Ouais, c'est sûr. C'est sûr que j'aimerais ça voyager, tu sais, c'est un peu pour ça aussi là, que je chante un peu là. Puis c'est le fun de voyager, voir des, comme tu dis, des nouveaux horizons. Puis c'est ça.
Cet album-là, il a été inspiré par quoi? Parlez-nous un peu de l'inspiration de l'album.
L'album, l'inspiration, ça a été inspiré un peu par, je sais pas comment dire, c'est un peu la faute de la pandémie. Là. La pandémie a joué un grand jeu pareil dans cet album-là parce que tu sais, j'étais souvent tout seul, puis tu sais, on sortait plus beaucoup, puis fait que cet album-là, c'est plus personnel dans le fond.
Scott, coudonc, as-tu perdu ta blonde pendant la pandémie?
Non.
Parce qu'il y a des tristesses dans ce que tu as écrit, dans ce que tu chantes, non?
Oh, oui, mais ça, c'est pas mon histoire à moi, dans le fond.
Tu chantes l'histoire des autres?
C'est l'histoire d'un ami, dans le fond, qui m'avait appelé, qui s'était confié à moi. J'étais à Montréal, dans ce temps-là, puis il m'avait appelé, puis il m'avait dit qu'il était en séparation avec sa femme, puis c'est confié à moi, puis moi, je me suis mis dans sa peau, dans le fond, comme si j'étais lui, puis j'ai écrit cette chanson-là.
Toi, es-tu en amour?
Ouais, j'ai une blonde.
Ah, bon, tout va bien.
Ça va super bien, moi.
quand tu rêves à ta carrière, tu te vois où, à faire quoi? Là, si tu rêves vraiment à ce que tu voudrais le plus, là, ça serait quoi?
Ce que je rêve, c'est de remettre la musique autochtone sur la map. Là.
Parce qu'à une certaine époque, ça allait quand même assez bien avec Ashton jusqu'à temps qu'il y ait la crise d'Oka. Hein?
Ouais, c'est ça. Ouais. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut... Faut changer de vision puis apprendre à se connaître avec les Québécois.
Mais quand même, on peut dire que tu as réussi à mettre ta musique puis la musique Innu sur la map avec, entre autres, le Grand Prix du talent bleu. Où tu as gagné une bourse de 100 000 $ quand même, puis les gens ont voté pour toi.
Ouais. C'est vraiment le fun, ça.
Ouais, c'était une belle expérience pour toi?
Encore là. Ah ouais, vraiment, ouais.
Qu'est-ce
vraiment.
Qui était le fun, le 100 000 ou le fait de chanter?
Un peu, le 100 000, oui, c'est ça. Mais tu sais, c'était plus... Au début, je n'allais pas là pour gagner, là. J'allais là pour... Avec pour un peu la visibilité, là, tu sais. Puis c'était juste pour avoir une belle expérience dans ma carrière musicale. Puis en fin de compte, j'ai gagné.
Quand tu gagnes un montant comme ça, est-ce que ça peut servir à location des studios, des musiciens? À quoi ça sert exactement, cet argent-là? T'es pas partir sur la brosse là-dessus, là?
Non. Non, c'est à toi, dans le fond. Mais moi, tu sais, j'ai donné une partie à mes musiciens, puis, tu sais, j'ai acheté un char avec ça, là, des guitares, des affaires de musique plus, là.
Est-ce que la production de l'album qui s'en vient a été un petit peu réalisée grâce à ce Grand Prix-là?
Non, j'étais déjà... J'avais déjà signé avec une boîte de musique, dans le fond, Instant Music. Là.
Là, il y a des sujets dans cet album-là qui vont sortir en 2020, un peu tristes, des sujets d'amour, etc., un peu... mélancolique, là.
Ouais, pas juste triste. C'est, je pense que c'est la seule tune qui est triste. Puis
ah bon, d'accord. Parce que on n'a pas entendu les autres. On ne savait pas.
Il y a une chanson aussi qui parle de ma grand-mère là, qui est décédée. Puis ça, c'est à peu près les deux seuls qui sont très tristes. Là.
Et les autres, ils parlent de quoi, tes chansons?
Ils parlent de mes amis autour de moi, dans le fond. C'est plus personnel. C'est plus les tournées qu'on a faites. On est content de voir du monde quand on fait des tournées. On est surtout content de revoir le monde qu'on n'a pas vu depuis un an, des fois deux ans à cause de la pandémie. Mm-hmm. Fait que c'est plus ça, je raconte ma vie en fait.
As-tu l'impression d'avoir perdu du temps à cause de la pandémie dans ta carrière?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je pense, moi quand la pandémie est arrivée, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, OK, ça suffit. Là. Je suis capable de faire autre chose. J'ai fait le deuil de la musique pendant quand même un an. Puis quand c'est revenu, là, c'était comme, OK, wow, c'est ça, là, tu sais, c'est comme... C'est quand c'est revenu, j'étais content, mais tu sais, là, j'ai vu là, que ouais, c'est fatigant de faire de la route, puis se promener. Puis
d'être loin de la famille, d'être loin des amis, ouais. C'est sûr, ça ne doit pas être quelque chose de facile. Le lancement s'en vient assez rapidement, en janvier. Mm-hmm. Est-ce qu'on sait où ça va être lancé? Ça va être dans ta communauté?
Oui, je vais le faire à Sept-Îles, en fin de compte.
OK.
Je vais le faire à Ouachat, parce que moi, je viens de Ouachat. Je viens de la communauté de Ouachat, dans le fond.
Oui.
Et Malioténam aussi. Je l'ai fait à Malioténam, le premier album, je l'ai fait à Malioténam, et là, je vais le faire à Ouachat, parce que c'est de là que je viens. Puis...
Est-ce que tu prévois une tournée par la suite?
Ouais, c'est sûr.
C'est sûr? C'est sûr. Donc, ouais. Si on veut savoir où tu risques de passer proche de nous, est-ce qu'il y a un site où on peut aller te voir? C'est sur Facebook. Comment on fait pour aller s'informer?
Dans Facebook, dans ma page Scott Pien Picard.
OK.
Ouais.
Donc, c'est le meilleur endroit pour savoir où on peut aller te voir.
Ouais.
Ben, Scott Pien Picard, merci beaucoup. Bravo pour l'album. Bon lancement.
Bravo pour tous les prix. On n'a pas parlé.
On s'en verra peut-être avant le prochain album, on ne sait pas. Mais bonne tournée. Merci.
Ouais, merci beaucoup.
Salut. We'll be right back. C'était Chi-Wi-Tam-Matin de Scott Ken Picard que nous venions d'avoir.
Ça swing, ça swing.
Ça swing.
Ben, l'émission se termine, ben oui. Alexis.
Faut que toute bonne chose a une fin.
Alexis Wawanoloat, Robert Blondin ici. Écoute, l'équipe est là au complet. Nicolas Wartman, Claire Guérin, Louis Garon. Ils seront tous là la semaine prochaine aussi.
Oui.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.